Dutrisac.
Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
D'oublier l'œuvre de Pierre-Elliott Trudeau, d'oublier ce que les francophones ont vécu dans les déportations, les exécutions, l'interdiction d'avoir de l'éducation en français, ce régime-là a été constant durant toute son histoire. Et moi, ce que je dis, puis ça a fait plus d'émoi que ce que je pensais, parce que ça me semble évident, si on ne bouge pas, il va nous arriver ce qui est arrivé aux francophones dans toutes les autres provinces canadiennes. Et ça prend pas un gros cours de l'histoire du Canada pour rattacher les événements récents avec ce que le Canada a toujours été.
Paul Saint-Pierre Plamondon avec nous, Éric Bédard, qui est historien et prof à l'Université de TELUC, spécialisé entre autres sur le Québec. Éric, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça prend une grosse, grosse connaissance, Éric, de l'histoire du Canada pour comprendre ce que M. Saint-Pierre Plamondon a dit?
Ben non, ça prend une petite révision chronologique assez simple. Je pense qu'en effet, ce que disait le chef du Parti québécois, ça me semble une évidence. En effet, peut-être que de relier la déportation de 1755 avec le Canada de 1867, c'est forcer un peu le trait, mais je comprends l'idée. C'est-à-dire que il y a eu un antagonisme entre les Américains, les Anglais d'un côté, les Français et les Canadiens de l'autre, à l'époque de la Nouvelle-France. Et ça a amené aux événements qu'on sait, la conquête et les patriotes et ensuite la Confédération. Mais certainement que depuis 1867, c'est pas un bilan très positif pour qui dit que le Québec doit avoir son autonomie. Il y a eu des gains, il y a eu des possibilités de développement, c'est indéniable. Mais le bilan est globalement négatif.
Je reprends les propos du chef du Parti québécois, Éric. Est-ce que le Canada a voulu effacer, d'un point de vue historique, là, je m'adresse à l'historien, effacer le Québec?
Je ne sais pas si je le formulerai comme ça, parce que le Québec était un État fédéré en 1867, avec des juridictions, c'était le seul, par contre, de qui on exigeait une forme de bilinguisme, alors que les autres, très rapidement, c'était l'anglais. J'appliquerais ça surtout aux francophones hors Québec, jusqu'à, paradoxalement, 1982, qui a donné des droits aux francophones hors Québec. Ils se sont saisis de ça, ils sont allés devant les cours, ils ont remporté quelques victoires. Mais ce qui est triste, c'est que le régime fédéral a joué des minorités francophones hors Québec contre le Québec très souvent. Tu sais, en disant, ben vous aussi, vous avez votre minorité, des anglophones, comme si c'était la même situation politique, géopolitique, démo-linguistique. Donc, on a beaucoup fait ça. Mais c'est vrai que le bilan des francophones hors Québec, évidemment, c'est très délicat parce que moi, j'ai rencontré souvent des francophones hors Québec qui se battent, qui font tout pour préserver le français. Puis c'est, tu sais, quand on fait ces constats-là, on dit pas que ce qu'ils font c'est sans intérêt, puis c'est voué à l'échec nécessairement. Mais les fondamentaux sont pas très positifs. Et ça, dès les années 50, tu sais, il y a un certain nombre de gens qui sont devenus souverainistes à partir des années 50, parce qu'ils voyaient les chiffres. Tu sais, il y avait des jeunes des années 60, eux autres, ils disaient, le Québec, c'est comme l'Algérie, c'est comme le Vietnam, c'est comme les Afro-Américains, on fait partie de cette grande lutte de la décolonisation. Ça, c'était des jeunes très, très souvent de gauche, puis bon, c'était la guerre froide. Mais tu as eu beaucoup de conservateurs, des gens plus conservateurs qui sont devenus souverainistes en regardant les chiffres. C'est-à-dire, ils ont dit, notamment le recensement de 1951 puis le recensement de 1961 montraient noir sur blanc que plus on s'éloignait de l'épicentre québécois, plus l'assimilation était importante et allait vite. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, ben, il faut à ce moment-là se replier sur la citadelle québécoise. Vous voyez l'exemple? Comme si les francophones hors Québec, c'était nos avant-postes. Ils tombent les uns après les autres. Donc, on va se replier sur la citadelle québécoise, puis on va se donner un État indépendant pour assurer la pérennité d'un fait français en Amérique majoritaire. Ça a été ça la logique aussi de beaucoup d'indépendantistes dans les années 50-60. Donc, c'était pas évident de combiner les deux, des gens qui avaient cette perspective, disons, un peu négative, crépusculaire, puis des gens qui voyaient l'indépendance comme une nouvelle société qu'on va construire à neuf. Alors, il y a toujours eu cette tension entre ces deux types d'indépendantistes dans le mouvement. Et là, la corde sur laquelle a beaucoup joué Saint-Pierre Plamondon, c'est la peur de disparaître, mais qui est là, qui gît, tu sais, qui est dans l'âme québécoise. Il y a quelque chose de cet ordre-là depuis longtemps.
Ouais, Éric, je vous suis là. Vous parlez de la peur, puis c'était ma prochaine question. Marc Tanguay a dit deux fois plutôt qu'une que là, M. Saint-Pierre Plamondon misait sur la peur. C'est un peu drôle d'entendre ça de la part d'un fédéraliste, alors qu'ils nous l'ont passé d'en face à combien de reprises, Éric?
Ah oui, c'est sûr que l'argument de la peur, ça a été l'argument massu des fédéralistes contre l'idée de l'indépendance. On n'aura pas une économie assez forte.
Les pensions, les chèques de pension de vieillesse.
Les chèques de pension.
Les taux d'intérêt vont augmenter. Ça a été sans arrêt là, de jouer sur la peur. Et aujourd'hui, on tourne ça à l'envers parce qu'on rapporte des faits historiques.
Oui, oui. Et puis, c'est vrai, historiquement, qu'il y a eu au moins deux velléités, deux volontés claires dans notre histoire d'assimiler, y compris les francophones du Québec. Il y en a une en 1763. Je pense que c'était clair dans l'intention du gouvernement anglais. Malheureusement pour eux, entre guillemets, heureusement pour nous, il n'est pas venu assez d'Anglais dans la vallée du Saint-Laurent pour nous assimiler, parce qu'ils préféraient aller aux États-Unis, rejoindre leur communauté irlandaise, écossaise, puis c'est un peu, ça s'explique. Puis aussi parce qu'on a fait beaucoup d'enfants, on appelait ça la revanche des berceaux. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais en 1840, ils sont revenus il y a eu le fameux rapport Durham qui disait, ben, il faut aller là. Le rapport de Lord Durham, c'est dire, le meilleur service à leur rendre, à ces pauvres gens sympathiques, mais un peu illettrés et co-sanguins, là, c'est de les assimiler, d'en faire de bons sujets britanniques. Et remarquez, c'est la même logique qui a présidé, à la politique avec les Autochtones plus tard. Heureusement, beaucoup moins dramatique pour nous, heureusement, là. Comparaison, il faut faire attention. Mais c'est un peu la même logique. On va aider les Autochtones et la meilleure façon de les aider, c'est de les assimiler, c'est de faire disparaître cette espèce de culture là archaïque qui rime à rien, puis de leur apprendre l'anglais et de les convertir au protestantisme. Donc, à deux reprises, c'est ça. Puis une fois qu'on a eu 1867, on a eu l'État québécois quand même pour se développer. Je parle des Québécois du Québec, là. Mais c'est sûr que le portrait des francophones hors Québec jusqu'aux années 80 est catastrophique. Et ensuite, ben nous, oui, on a pu se développer. Mais là, il y avait raison de dire que notre poids au sein du Canada ne cesse de diminuer. En 1867, on était 40%. Là, on est 22, puis on va être 17. Et quand vous avez moins de 20% dans une fédération, vous n'avez pas beaucoup de poids et vous pouvez faire élire des gouvernements majoritaires sans le Québec, sans aucun problème. Et là, bonne chance pour l'agenda de la francophonie et du Québec.
Éric Bédard, l'amnésie volontaire, je dirais, en histoire, là. Vous avez vu la représentante spéciale de l'islamophobie, là, Madame Amira El-Gawabi, dire qu'elle a eu des nausées parce que on parlait des tous les obstacles que le peuple québécois a dû surmonter. Si on fait de l'amnésie, on peut pas choisir l'amnésie. On oublie ce qui est arrivé aux Autochtones, on oublie ce qui est arrivé avec l'esclavage, on oublie il y a un auditeur qui parlait du combat du droit des femmes. Combat droit des gays aussi, on l'oublie ou on l'oublie pas, mais en histoire, on peut pas choisir.
Non, ben c'est ça. Évidemment, tous les mouvements, tous les mouvements d'émancipation se fondent sur un savoir historique, des connaissances, des faits. Alors, on peut parfois les contester, les interprétations, mais on peut pas contester le fait que, arrivé durant les années 60, on constate noir sur blanc, c'est même documenté par une commission fédérale, le déclassement des Canadiens français sur le plan socio-économique. Et c'était bien montré d'ailleurs dans le très beau documentaire de Félix Rose sur son père et son oncle, que j'ai vu avec ma fille d'ailleurs, qui avait 20 ans, c'était il y a 3 ans de ça. Elle était sortie assez bouleversée parce que, tu sais, elle écoutait son père avec ses histoires là de, vous devez vivre ça avec vos enfants, tu sais, on leur parle de ces histoires-là qui nous ont été rapportées par nos parents ou nos grands-parents, mais tu sais, ça s'efface avec un peu le temps. Et là, elle m'écoutait, tu sais, bon, oui, papa, reviens-en un peu, tu sais, bon. Et là, elle voit ce documentaire-là et elle a été saisie. Mais ça, c'est ça. Il faut mieux faire comprendre d'où ça vient pour expliquer notamment le mouvement, évidemment, souverainiste, mais le mouvement aussi autonomiste, nationaliste, ouais. Pour expliquer aussi les lois linguistiques. Pourquoi on a des lois linguistiques et la laïcité. Donc, par exemple, quand le premier ministre Legault avait fait son discours pour défendre la loi 21, j'avais trouvé qu'il manquait d'histoire dans son plaidoyer. Tu sais, c'est bien beau de dire c'est comme ça que ça marche au Québec. Ouais. OK, c'est un peu le point sur la table. Oui, mais la majorité, c'est bien, mais il faut expliquer d'où ça vient. Et ça vient du fait, en effet, qu'on a eu une église très forte, très puissante, ouais. Et on veut passer à autre chose comme société où il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs religions. Alors, voilà.
Et donc, les dangers qui nous guettent aussi, là, si on sait pas ce par quoi on est passé, on risque de retomber dans le même piège. Qu'est-ce que vous dites, Éric, je vais vous mettre dans l'embarras, là. Je fais exprès, là. OK? Je fais exprès. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, à Alexandre Boulris, là, du NPD, qui dit déportation 1755, exécution 1839, on est en 2024?
Ah ben là, non mais ça franchement là, ce type d'argument, évidemment, il vient des moments où quand on cherche un compromis, quand on cherche à, on peut pas toujours vivre avec les drames du passé, mais on peut pas non plus les effacer. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire. Il y a un antagonisme anglo-franco qui est au fond, c'est la fameuse dualité dont on parle toujours quand on parle du Canada. Je pense que ça fait partie de l'histoire, mais de dire ça, c'est mettre sous le tapis des contentieux, des événements un peu traumatisants qui habitent notre mémoire. Donc, il faut pas, on peut pas les invoquer tous les jours, puis tu sais, c'est pas toujours pertinent. Je comprends.
Jouer au martyr, non?
Mais jouer au martyr, non, je comprends, mais en même temps, quand Paul Saint-Pierre Mondon dit, regardez là, sur la longue histoire, là, regardez la situation des francophones, c'est difficile de lui donner tort. Maintenant, lui, il propose une solution, il dit, moi, par la souveraineté, je pense que c'est l'option comme citoyen que je soutiens aussi, mais il dit, c'est ça qu'il faut faire. D'autres disent, non, on va se battre à l'intérieur du Canada, très bien, mais la vulnérabilité, elle reste là. Ce qui est compliqué un peu dans le cas des Québécois, c'est que depuis la Révolution tranquille, individuellement, on s'en sort mieux. Ouais. Comme Franco, on n'a plus cette idée d'un plafond de verre. Heureusement, on a fait des gains. Même à l'intérieur du Canada, faut donner ça à, le Canada a eu une certaine flexibilité qui a permis la Révolution tranquille. Mais collectivement, on est vulnérable. C'est ça, on dirait que des fois, on comprend pas.
Mais
on est individuellement performant et on va bien, mais collectivement, on est vulnérable. Et la question, c'est est-ce qu'on prend acte de ça, puis on agit en conséquence, ou on fait comme si ça n'existait pas, on est dans le déni, on met ça sur le tapis.
Mais on reconnaît le progrès, mais ça veut dire qu'on tous les autres griefs dont on entend parler là, tout quand la pleureuse en chef à Ottawa se met, tu sais, à pleurer sur le sort de tout le monde sauf celui du Québec, à un moment donné, si nous on reconnaît le progrès, puis je suis d'accord avec vous, c'est important de le faire puis de pas jouer au martyr sans arrêt, mais on peut demander aux autres communautés aussi d'arrêter aussi de toujours se référer au pire de leur histoire puis de viser
tout à fait. Mais mon hypothèse là-dessus, je l'ai déjà écrit, c'est que depuis 1982, on est devenu un peu le tapis sur lequel s'essuie un certain Canada anglais trudeauiste. Depuis 1982, on était un peu le vilain de leur histoire. C'est-à-dire, les Canadiens ont refondé leur pays en 1982 sur des bases où ils se perçoivent comme l'avant-garde de l'humanité. L'endroit où il y a une réconciliation entre toutes les différences, et le moindrement qu'on critique ça, on est forcément dans la réaction, dans le repli, dans la xénophobie. C'est comme ça que les sujets sont posés. Souvenez-vous de la première question au débat des chefs en anglais avec Yves-François Blanchet, quand elle parle des deux lois, elle dit, tout le monde, c'est une évidence que c'est xénophobe, mais vous dites que... Mais voyons donc, c'est pas Xena. Tu sais, la prémisse était biaisée parce que c'est comme ça. Il se donne une forme de supériorité morale.
Et on va vous instruire.
Et ils incantent.
On va vous instruire.
Tu es la chef des Verts.
Ouais.
Je m'en vais t'éduquer.
Ouais.
C'est ça. Je m'en vais t'éduquer. Toi, pauvre chef du bloc qui comprend rien, c'est insupportable cette supériorité morale. Et ça joue beaucoup contre le Québec.
En parlant de supériorité morale, en se laissant Éric Bédard, il y a aussi la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit, je le cite, c'est un discours empreint de ressentiment. Je pense même qu'un discours comme celui-là, ça peut éloigner bien des jeunes du projet indépendantiste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors, Bon, alors, oui, là, je vais peut-être vous surprendre, parce que dans l'histoire du mouvement indépendantiste, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, et je dis souvent, il y a comme deux jambes. Il y a la jambe conservatrice de dire, on a peur de disparaître, puis ça, c'est un peu le moteur de notre action. On veut sauver le bateau, puis on veut pérenniser quelque chose. C'est beaucoup la corde sur laquelle a joué, a tablé le chef du PQ en fin de semaine. Et t'as l'autre jambe du rêve d'une société nouvelle et meilleure. Tu sais, l'espoir d'une transformation. Un Québec indépendant serait plus écologiste, plus féministe. Bon, moi, j'ai toujours pensé qu'un Québec indépendant serait ni meilleur ni pire, qu'on aurait nos débats gauche-droite. J'ai jamais trop embarqué. Mais j'ai toujours constaté que ça, c'était un élément très important. Autrement dit, idéalement, il faut les deux. Pour marcher, pour avancer, il faut les deux. Donc, la jambe dit, attention, on peut disparaître, c'est fragile, le Québec et la situation des francophones. Mais de l'autre, on rêve de quoi dans cette société nouvelle qu'on veut construire? Et c'est sûr que QS, c'est plus cet élément-là qu'ils veulent promouvoir, mettre de l'avant lorsqu'ils parlent d'indépendance. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait eu cette critique. Et en effet, dans le meilleur des mondes, le mouvement indépendantiste aurait les deux. Aurait des gens qui diraient, attention, c'est fragile, mais en même temps, rêvons d'une société meilleure et essayons de travailler ensemble. Donc, on a le même objectif, mais on vient de routes différentes.
Et ce débat-là peut se faire après l'indépendance. Mais avant, c'est comme se mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'effectivement, ce qu'on veut faire de ce pays, ça, on le décidera quand on sera un pays. On ne peut pas décider avant. En tout cas, est-ce que c'est un radical, Paul Saint-Pierre Plamondon, à vos yeux?
Non. Moi, je trouve pas que ça, c'est radical. C'est un diagnostic. C'est une analyse et qui repose sur des faits. On peut chipoter sur deux, trois interprétations, mais je trouve pas que c'est radical. C'est noir. C'est assez noir. Et en même temps, des fois, c'est pas mauvais d'avoir un test de réalité. Tu sais, on peut pas se raconter toujours des histoires. C'est noir. C'est pas agréable d'une telle perspective, mais il faut y réfléchir, puis il faut voir s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans aussi.
Éric Bédard, historien, je pense que vous l'avez constaté. Merci Éric, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup, au plaisir.